Chapitre 7 bis. Ce même jour, nous reçûmes la visite du capitaine qui vint nous voir accompagné de Madame Mascudier et se rencontra au Bourdon avec Mademoiselle de Falibert. Cette jeune fille, qui m'inspirait grande sympathie, changeait beaucoup depuis quelque temps. Plus réservée, on sentait un fait nouveau entre elle et nous. Plus froide surtout avec son amie, qu'elle aimait cependant tendrement, elle se laissait évidemment dominer par une vague jalousie. En la critiquant dans mon fort intérieur, je cédais moi-même, je crois, à une jalousie d'un autre genre. M. Kerdulen, d'un air souriant et cérémonieux tout à la fois, remit à Manette un paquet soigneusement enveloppé d'un papier de soie, entouré d'une faveur blanche, attention agréable et puérile de ce charmant spahi. Je connaissais trop bien la physionomie de Manette pour ne pas remarquer le désappointement qu'elle sut toutefois dissimuler aux yeux moins attentifs que les miens. « Ah, vous y avez pensé? C'est gentil. Je craignais que vous n'eussiez oublié ma demande. » L'ironie de la phrase ne pouvait échapper à un esprit moins préoccupé que celui de M. Kerdulen, mais il n'y vit que du feu. « Je vous l'ai prête, mademoiselle, et seulement pour un temps... un temps très court, n'est-ce pas ?»« Vous les réclamerez quand vous voudrez, » répondit Manette, qui, par cette réponse adroite, ne s'engageait à rien. Cécile, avec un dépit manifeste, écoutait attentivement ce colloque. Elle ne savait pas, comme son amie, dissimuler ses impressions et, dans ses beaux yeux bruns, se voyait son ennui. « Qu'est-ce donc? Suis-je indiscrète en le demandant ? Manette, fais-tu encore des mystères avec M. Kerdulen ?»« Nullement. J'ai prié le capitaine de me prêter mes lettres de marraine. Je désirais les relire et constater que j'avais fait de la prose sans le savoir. » M. Kerdulen en parlant avec une admiration que je crois très exagérée. Non, mademoiselle, aucune exagération, cette admiration est méritée. Mon étonnement en regardant Manette fut extrême. Elle possédait toutes les copies de ses lettres. Un geste rapide, appel à ma discrétion, m'aurait mise sur mes gardes si j'eusse été tentée d'intervenir. Elle s'avança près de moi pour poser le paquet sur une table et j'entendis Cécile, qui l'avait suivie, lui dire tout bas « Les rendras-tu ? » « Non. Chut, ne dis rien et sois tranquille. » Cécile se recula. Son expression ravie m'eut appris ce que j'avais déjà deviné et la réponse de Manette, en dissipant une inconsciente jalousie, détruisait jusqu'à l'apparence d'une rivalité ou d'une simple arrière-pensée. La détente était complète chez Mademoiselle de Falibert, et sa beauté, en causant avec M. Kerdulen, prit un éclat que remarqua Madame Mascudier. « Elle est vraiment bien jolie, me dit-elle, plus jolie encore aujourd'hui. » « On sait pourquoi, M. Kerdulen partage certainement votre avis. » « Trop, je le crains. » « Pourquoi donc? Tout ceci finira d'une façon rationnelle, c'est-à-dire par un mariage. » « Je craindrais des difficultés si Roger poursuivait cette idée. Aussi, mon mari et moi n'abordons jamais un sujet qui deviendrait facilement irritant. Mais nous voyons clair. » « Les difficultés se surmontent ou se tournent, dis-je, et je suis convaincu, pour parler à la mode de l'ancien temps, qu'il faudra bientôt commander les violons. » Nous nous interrompîmes pour écouter la conversation des jeunes gens. M. Kerdulen, sous l'empire d'un sentiment profond, d'une espérance vive, ne pensait plus à poser et jouer franc jeu. Il parla sur un ton lyrique de l'Anjou et son lyrisme ne s'adressait pas au pays, mais à la femme qui baissait les yeux sous son regard trop expressif. Il questionnait Cécile sur ses goûts et, afin de sauver quelques apparences, adressait les mêmes questions à Manette qui répondait « Monter à cheval, rouler en magnifique auto, danser, jouer au tennis, voyager et ne connaître aucun souci matériel, la grande vie, voilà mes sympathies. » C'est beau, vraiment, une semblable existence. » Le capitaine ouvrit de grands yeux et parut croire, non sans raison, que ma cousine se moquait de lui, ou plutôt de ses questions dont elle apercevait le mobile. « Vous n'êtes jamais sérieuse, mademoiselle, jamais. Sous mes palmiers insipides, je m'en doutais déjà. » « Qu'ai-je dit de si léger? les gens les plus sérieux aiment danser, voyager et s'amuser. Je suis de ce nombre, rien de plus naturel et, à mon avis, de moins critiquable. » « Mais tu nous débites des absurdités, Manette !» s'écria Mademoiselle de Falibert. « Les gens sérieux, et nous en sommes tous, toi particulièrement, malgré ta gaieté, aiment une vie posée, raisonnable. »« Mademoiselle Estelle se moque de nous, » dit le capitaine, avec le sourire qui semblait toujours vouloir subjuguer le monde entier. « Pas autant que vous croyez, » répliqua Manette avec un certain dédain. « Je n'aime pas les ennuis matériels, les difficultés mesquines, aussi agaçantes parfois que des piqûres de moustiques. »« Elles animent l'existence, mademoiselle. Je le vois tous les jours dans l'intérieur de mes camarades. » Il parla gaiement de l'ingéniosité de ses amis quand, sans fortune, il ne savait comment faire bouillir la marmite. « C'est insupportable cela, Roger, » lui dit Madame Mascudier. « Jamais je n'aurais accepté pareille existence. » C'est un peu ennuyeux parfois, mais on s'en tire. Combien de fois ai-je entendu mes camarades raconter, en s'en amusant, leur spirituel procédé pour s'installer élégamment avec un mobilier de fortune ou pour joindre les deux bouts. Et leurs femmes rient-elles également ? Je ne le pense pas. Je vous demande pardon, ce sont les premières à manifester leur bonne humeur. C'est bien le moins, madame, dit vivement Cécile. Leur sourire, leur esprit sont la joie de la maison et en somme, tout repose sur elles. Raison de plus pour qu'elles en souffrent, répondit Madame Bascudier, qui ne cachait jamais ses sympathies pour une large existence. Souffrance très relative, répliqua Cécile avec conviction. Des privations insignifiantes ne comptent pour rien, et peut-on tout posséder dans la vie ? La vie d'un officier sans fortune est difficile. « Reprit Madame Mascudier. Il ne s'agit pas de privations insignifiantes, mais d'une lutte souvent fort pénible. » M. Kerdulen lui lança un regard très noir et changea d'expression en écoutant la réponse de Cécile. « Quand on a le principal, qu'importe la lutte et les petites épines ? Ce pénible, je le répète, est relatif. » « Et la souffrance relative ne vous effraierait pas, mademoiselle ?» demanda légèrement le capitaine. Mais la question collective ne s'adressait qu'à Mademoiselle de Falibert. « Moi, » dit Manette résolument, « je la trouve sinistre. »« Allons, continue, » dit Cécile en riant. « Cependant, tu vois tous les jours que la gêne est devenue le sort commun. Et ce sort est supporté avec tranquillité, beaucoup de dignité. Il n'a rien d'effrayant, tu le sais bien. » Manette, prenant son petit entraînant, répondit malicieusement « « Comme tu as changé, chère. Autrefois, cette autrefois ne remonte pas à 3 mois, tu redoutais la vie étroite, tu affirmais très vivement ton antipathie. Mais voilà, c'est la guerre. Vraiment, elle nous a donné des goûts plus simples. » Mademoiselle de Falibert, malgré la douceur de son naturel, eut volontiers sauté à la tête de son amie, mais elle répondit, avec un abandon qu'on lui voyait rarement et qui lui allait bien, « Eh oui !» Nous tous, gens du monde, nous avons des goûts différents, ou plutôt, nous avons changé nos habitudes. Nous ? Répéta Manette avec malice. Je ne parle pas de moi ni des miens, puisque ma famille n'est pas atteinte par les événements. Mais j'observe et j'admire chez autrui des qualités que j'aurai peut-être un jour. On change d'idée et de goût sans catastrophe préalable. C'est vrai, souvent les catastrophes n'y sont pour rien, au contraire. « Je félicite ceux qui changent, » ajouta gaiement Manette. « J'ai horreur des momies. » Le capitaine approuvait naturellement chaque parole de Cécile. Il la regardait avec une ardeur qui excitait l'enthousiasme de la jeune fille pour ses nouvelles idées et la forçait aussi à détourner les yeux avec embarras. Jamais amoureux ne s'était fait de déclaration plus explicite sous le couvert du pot-au-feu. Cependant, M. Kerdulen, contredisant Mademoiselle de Falibert sur un point, déclara que, selon lui, de tout temps, les catastrophes servaient à inculquer l'idée sérieuse du travail. Entraîné par ce sujet, qui lui rappelait des souvenirs personnels, il parla avec simplicité de son enfance, de sa jeunesse laborieuse et des exigences sévères du colonel Kerdulen sur la somme de travail que son fils devait donner. « Sans les déboires éprouvés par mon père, peut-être eût-il été moins sévère et à l'heure présente, je serai ce que le peuple appelle d'un mot très juste, un propre à rien. » « Oh non !» protesta mademoiselle de Falibert. « Qu'en sait-on, mademoiselle ? Je n'étais pas un travailleur acharné. Sans la salutaire direction des événements et de l'éducation, qu'aurais-je fait ? Je n'ai pas assez de confiance rétrospective en moi-même pour répondre en ma faveur. » « Vous parliez de déboires éprouvés par monsieur votre père ? Quel déboire ?» demanda curieusement Manette, sans se soucier de son indiscrétion. « Ce n'est intéressant pour personne, » répondit le capitaine, qui, confus, se dérobait. « Mais si, je vous assure, » dit Cécile d'un ton presque caressant. « Soutenez votre thèse par un exemple, comme disait une vieille demoiselle, notre professeur à Manette et à moi. » M. Kerdulaine répondit, en quelques mots brefs, que son père avait prêté à des cousins, associés dans une industrie, une forte somme perdue par la mauvaise foi ou la mauvaise administration de ses parents. Cette perte, précédée d'un déboire important, avait achevé de ruiner le colonel. Heureusement que mon père, grâce à sa retraite, n'a pas trop souffert matériellement d'une imprudence qu'il se reprochait amèrement. « Mais vous voyez, mademoiselle, si personnellement, j'avais raison dans mes affirmations. » Manette écoutait avec une attention tendue et tout à fait surprenante. On eût dit qu'un intérêt vital s'échappait pour elle des réponses de M. Kerdulaine. « Vivent-ils encore, les individus qui ont trompé votre père ? » demanda-t-elle avec empressement. « C'est possible, mademoiselle, mais je ne possède que d'incertaines données. » À la mort de mon père, nous les avions depuis longtemps perdus de vue. On m'a dit que l'un d'eux vivait à l'étranger et travaillait. A-t-il fait d'heureuses affaires ? Je l'ignore. Aucun recours n'était possible, mon père, confiant et grand seigneur, ayant prêté sans même exiger un billet. « Excellent, votre père, mais bien imprudent, lui dit Madame Mascudier. Vous ne m'aviez jamais parlé aussi explicitement de cette affaire, Roger. » « Je n'y pensais plus, je vous assure. Les questions de ces demoiselles m'ont amené à parler beaucoup trop de moi-même. Je me trouve parfaitement ridicule. »« Pourquoi donc ?» répondit négligemment Manette. « Vous êtes au milieu d'amis, ne le savez-vous pas ?»« Si, si, il le sait bien, » dit Madame Mascudier en se levant pour partir et d'un ton assez contrarié. Elle jugeait avec moi, je crois, que M. Kerdulaine avait saisi l'occasion qui se présentait de mettre Cécile au courant d'une situation qui déplairait à M. de Falibert. Nous les reconduisîmes à l'entrée de l'avenue où les attendait l'automobile de notre voisine. À peine la voiture fut-elle en marche que Cécile attaqua vivement son amie. « Je suis furieuse, désolée encore plus. Comment ? Tu vas dire que mes goûts ont changé récemment ? Tu m'incites à parler de telle sorte que M. Kerdulaine a vu certainement des sous-entendus dans mes paroles. Eh bien, cher. Comment, eh bien ? Mais c'est affreux. Premièrement, c'est un affreux dont tu es contente. Secondement, et par voie logique, tu n'es pas désolée, loin de là. Troisièmement, il n'existait pas ces sous-entendus. Que veux-tu dire, Manette ? Tu as une façon de répondre alors que tu devrais t'excuser. « Je ne m'excuse pas, mais je t'embrasse, » répondit Manette, joignant le geste à la parole. « À présent, n'en parlons plus. Nous irons demain à la Moussée, Cécile. »« Vous aussi, madame, vous viendrez ?» demanda distraitement mademoiselle de Falibert, que ses émotions rendaient toutes rouges. « Je ne sais pas encore. Je verrai. »« Si tu veux, je vais te reconduire, Cécile. » « Inutile, dans un quart d'heure, je serai chez moi. » Manette, pensive, la regarda s'éloigner d'un pas léger, d'un pas heureux, si on peut ainsi dire. « Elle aime mieux la solitude et je le comprends. Le bonheur a des ailes, » me dit ma cousine d'un ton rêveur. « Regardez-la, il la porte littéralement. » Quand la jolie silhouette eut disparu au tournant d'un sentier, Manette, me regardant avec calme, reprit le chemin du bourdon et modéra son pas pour marcher près de moi. « Ma cousine, nous ne verrons jamais, je suppose, façon plus comique de s'adresser des déclarations. Quand on pense que ce sont les navets et les sardines du futur ménage qui exprimaient leur amour réciproque, car c'est ça, madame. » Préoccupé, je répondis par un signe affirmatif et, malgré moi, je posai une main caressante sur son bras. Ce simple geste l'attendrit et ce fut d'une voix moins ferme qu'elle reprit. « Vraiment, ils étaient bien bons tous les deux. Pauvre Cécile, elle ne connaît pas les difficultés dont elle parlait, mais son cœur suppléera à son inexpérience. Elle est intelligente, du reste. » Geoffroy nous attendait dans le jardin et, de loin, la mélancolie de son attitude me frappa péniblement. Sa fille courut à lui pour l'embrasser avec une recrudescence de tendresse qu'elle mettait depuis quelque temps dans ses rapports avec lui. Pendant que nous échangeions des propos insignifiants, elle croisa les mains sur l'épaule de son père et j'interprétai son expression selon mes préoccupations secrètes qui étaient bien loin de concerner le capitaine Kerdulen. Mais pourquoi ce regard de pitié? Pourquoi? Et que savait-elle? Une heure plus tard, la croyant au salon, j'entrai dans sa chambre pour chercher un livre. Manette avait allumé du feu et regardait flamber des papiers. Nullement troublée par mon entrée, elle me fit un petit signe d'amitié et continua à jeter au feu, une à une, les lettres qu'elle tenait encore. Je m'approchai avec un serrement de cœur, mais je vis aussitôt que ma cousine ne demandait aucune compassion. « Voilà qui est fait, » dit-elle en jetant la dernière lettre. « Les miennes, les siennes, tout y est. Les preuves originales de cet enfantillage sont détruites, et si vous le voulez bien, madame, vous brûlerez les copies que vous avez gardées. » Enfantillage, oui, mais enfantillage qui avait été le fondement d'un joli édifice. D'un revers de main, Manette en renversait les derniers vestiges. Je m'aperçus à mon chagrin caché que je m'étais attaché, malgré tout, à l'idée qu'elle épouserait Kerdulen. Quels que fussent les défauts du jeune homme, ses qualités les dépassaient, et peut-on demander plus? Silencieusement, nous regardâmes brûler les dernières feuilles. Quelques flammes encore, un peu de fumée. « La jeunesse est souvent ridicule, madame, » me dit Manette qui contemplait la cheminée. Vous voulez dire que les illusions la dominent. Mais sans les illusions, où serait la jeunesse? À chaque génération, nous répétons la même chose quand une déception passe. Oh, une déception, protesta-t-elle en me regardant. N'allons pas trop loin, madame. Il y a beau jour que... Elle s'interrompit, remua les cendres noires avec son pied et les réduisit à rien. Bien des femmes, à sa place, eussent conservé précieusement le souvenir matériel d'un bonheur espéré. Beaucoup se fussent complus à revivre en imagination ce qui ne pouvait plus vivre. Manette, simplement, coupait court aux vaines pensées et, avec résolution, balayait la place encombrée. « Si M. Kerdulen réclame ses lettres, Manette, il vous les prêtait seulement, disait-il. » « Réclamer ses lettres, ma pauvre cousine, » répondit-elle avec une franche gaieté, tant ma réflexion lui parut naïve. « Il oubliera de le faire, soyez-en persuadée. Derrière ses protestations polies, je devinais son désir secret. Allez !» Sa finesse, plus grande que la mienne, prononçait le mot juste. Kerdulen ne demandait qu'à oublier. « Est-ce pour cela que votre ton, en répondant au capitaine, contenait tant d'ironie ?» « Ah, vous avez remarqué ? Oui, ma cousine, c'est pour cela. En vérité, il me croit dans la circonstance tout à fait inintelligente. » Impatientée de me sentir encore attachée par les fils qui, jusqu'ici, ne m'avaient pas permis d'avancer, je brûlais mes vaisseaux. « Chère Manette, vous n'avez pas été sans me laisser entendre implicitement qu'une union avec M. Kerdulen vous aurait plu. Avez-vous changé ?»« Changé ? « Entendons-nous, il aime Cécile, alors ?» Au début, je doutais de ses préférences, et vous-même, Manette, je crois que... Au début seulement, ma cousine, irais-je aimer un homme qui ne m'aime pas ? La réponse me plut, mais je ne pus réprimer un sourire qu'elle me reprocha avec vivacité. « Allons, ne nous fâchons pas, dis-je. » Ma longue expérience a connu bien des anomalies, bien des contradictions entre les sentiments et les principes. Mais vous n'étiez pas aux sentiments, Dieu merci. Je n'en dirai pas autant de Cécile. Elle me fera bientôt des confidences, dit Manette en riant. elle aussi doutait, et à son doute s'alliait un peu de jalousie. L'amour de M. Kerdulen était si apparent aujourd'hui qu'il ravissait mon amie. Avant, elle était triste, dis-je. Elle appréhende certes des difficultés, elle n'a pas tort. Satisfaite des déclarations franches de Manette, bien que je ne les prisse pas à la lettre, je ne posais plus de questions. « Je vous assure, reprit-elle d'un ton sincère, que je suis heureuse, très heureuse, que M. Kerdulen aime Cécile, si toutefois il réussit à l'épouser. De toute façon, mon mariage avec lui devenait impossible. » Impossible, pourquoi donc? Les circonstances, au contraire, permettaient... Son expression changea aussitôt. Sans le vouloir, je venais de déchaîner l'orage des mauvais jours. « Ne me parlez pas des circonstances, » dit-elle avec une irritation à peine contenue. Sans daigner s'expliquer, elle courut à la porte qu'elle laissa retomber sur elle avec fracas. Je sortis tout inquiète de sa chambre pour m'en aller dans le jardin, promener mes ennuis et me diriger vers les allées qui aboutissent à l'orangerie sans oranger. Cette partie de la propriété, fouillie d'arbres et d'arbustes, touche à la futaie dont elle est séparée par la même grille légère qui entoure le jardin. Des lilas, des fusains, des lauriers-teints sont devenus énormes. Ils ont prospéré à l'ombre d'arbres d'essence différente et le soleil pénètre difficilement dans les allées étroites où je me réfugiais. Je me révoltais contre l'idée que le rubis, qui devait apporter tant de joie dans la maison, devenait une source d'amertume pour la pauvre enfant dont nous désirions tant assurer l'avenir. Je n'osais aborder avec elle le sujet, et pourtant, qu'il eût été utile de redresser un jugement qui s'égarait. Mais ni la solitude, ni les ombres rêveuses de jadis que je voyais passer entre les arbres, plantées par elles quand elles étaient une réalité, n'apportait la moindre lumière dans mon esprit inquiet. Une seule netteté s'imposait à mes réflexions. Manette se trompait, souffrait inutilement, et j'ignorais comment réagir contre le courant d'idées qu'il entraînait. Pas un instant, je n'eus la pensée que mon hésitation à parler pouvait être la crainte de découvrir que Manette avait raison.